France Inter.
Le peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et céramiste catalan Miquel Barceló vit entre Paris et Majorque ou Majorque. On ne s'est pas encore décidé sur la prononciation, île des Baléares où il vint au monde. Mais c'est au Mali parmi les Dogons que l'artiste, associé au mouvement néo-expressionniste, mais pas vraiment un mouvement précis finalement, passe les années les plus intenses de sa vie, intensité qu'il cherchera en vain à d'autres endroits du globe. Le 4 janvier dernier est paru son ouvrage autobiographique de la vie d'Amia au Mercure de France dans la collection Traits et Portraits dirigée par Colette Fellous. Pages de carnet, photos, anecdotes, objets, listes, plaisanteries, dessins et souvenirs nous plongent dans l'univers animiste de l'artiste. D'une plume brute et drôlatique, il décrit son rapport au monde, en passant par la littérature, les poissons, l'Afrique ou les termites qu'il utilise comme collaborateur artistique. En parallèle, l'ensemble des 350 illustrations qu'il a réalisées pour la Divine Comédie de Dante viennent de paraître en coffret comprenant les 3 volumes chez Actes Sud, dans une traduction de Daniel Robert. À signaler aussi jusqu'au 21 avril prochain, l'exposition Scarification au musée Barbier-Muller de Genève, dans laquelle Miquel Barceló établit des correspondances visuelles entre des objets et des sculptures des collections du musée liées au rituel tribal et ses propres œuvres. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Miquel Barceló.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce matin, j'étais avec Sophie Cal voir son expo et j'ai pensé à Picasso et à mon vieux copain Bob Cal, son père qui est très présent et qui nous a quittés il y a 10 ou 20 ans. Et je pensais à mes amis du passé, oui, ce matin.
Vous pensez beaucoup aux fantômes ?
Oui, les peintres, on vit avec des fantômes. Peut-être c'est un métier d'invoquer des fantômes, non, tout le temps. On parle avec des gens qui ne sont pas là. Oui.
Pourquoi ?
C'est un métier, comme ça s'appelle, qu'on voit apparaître des spectres, spectrographie. C'est un peu ça la peinture, non ? Ils apparaissent des choses qu'on ne savait pas qui étaient là. Alors c'est ça, c'est des invocations, voilà.
Dans votre autobiographie, vous dites que dans votre famille, tout le monde s'appelle Miquel depuis le XIIIe siècle. C'est le prénom qu'on donne aux fils aînés.
Oui.
Est-ce que ça arrive souvent que plusieurs Miquel se retournent en même temps quand on les appelle ?
Probablement, oui. Oui, je vais pêcher avec des amis à Majorque. On va à la pêche souvent. Et tous les quatre, on s'appelle Miquel. Et on est que nous quatre sur les bateaux. Et c'est incroyable. On dit Miquel et les bons se retournent.
Alors,
ça doit être pour le ton
aussi.
De la voix ou pour la manière, mais c'est extraordinaire. Et puis, c'est comme un fétiche parce qu'on y va que nous quatre. Si vous vous appelez
Oswald,
Jean-Pierre,
vous êtes refusé.
Chance. Oui.
Alors, quel Miquel êtes-vous ? Quel Miquel j'ai ce soir en face de moi ?
Non, mais je suis celui qui, autour de Rose, celui que je dois être. Je n'ai plein avant moi. Miquel Barceló, peintre, je n'ai un au XVIIIe siècle, peintre et sculpteur. Moi, je me dis peintre parce que finalement, tout ce que j'ai fait, c'est des branches de la peinture. Mais ce monsieur-là, qui est mort en 1714, il était peintre, surtout sculpteur, et d'église. Alors, il avait un atelier avec 40 personnes. J'ai peu de connaissances de sa vie, mais je trouve touchant qu'il y a ce sort d'entêtement de faire la même chose, non, depuis.
Alors, je fais un petit test avant de commencer. Miquel ?
Oui.
Ah, c'est bien vous.
Oui.
You.
Diane Bailey, le morceau Dance With Me.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec le peintre Mickaël Barcelo pour De la vie d'Amia, qui est paru il y a quelques jours au Mercure de France et qui tient son titre d'un vers du poète baroque espagnol Luis de Góngora y Argote, que vous faites apparaître en exergue. Hermoso dueño de la vida mía, beau propriétaire de ma vie. Pourquoi ce vers?
Oh, j'aimais bien De la vida mía. Je ne sais pas, ça sortait dans un de mes carnets, mais j'aime beaucoup Góngora. J'aime beaucoup le baroque et Góngora, c'est un peu un magicien de... Hermoso dueño, c'est mystique, non? C'est un poème amoureux.
En exergue aussi, Mickaël Barcelo, il y a une de vos réflexions. Je n'ai jamais travaillé, je me suis trompé chaque jour de ma vie avec ma peinture. Dans une autre interview, vous dites, le don, c'est l'erreur, pas ce qu'on a appris. C'est quoi une erreur pour vous?
Tout ce qu'on voulait, que c'est pas comme on prétendait faire. Quand vous, si vous peignez ou quand on écrit, probablement c'est pareil. On essaye de faire quelque chose et tout ce que je pense que j'ai fait comme j'avais prévu, c'est raté. Et ensuite, c'est toutes les choses qui apparemment ne marchent pas. Finalement, c'est ça, que c'est la graine de quelque chose qui va marcher. Oui, c'est toujours des erreurs. Mais les tableaux, c'est des palimpsestes d'erreurs, une erreur sur une autre.
Des palimpsestes d'erreurs,
oui, comme si on fait 1000 feuilles, non? Chaque feuille couvre une feuille que c'était soi-disant. Et puis finalement, finalement, ça, c'est que les plaques tectoniques qui se renversent, ils apparaissent. Oui.
On dirait que vous avez une tendresse pour ces erreurs ou que vous vous en accommodez assez aisément.
Mais j'ai appris, c'est qu'on les termites, j'ai appris à le laisser apparaître, finalement.
Vous pouvez raconter les termites aux auditeurs?
Les termites, vous savez, j'étais en Afrique depuis quelques mois, au Mali, à Gao. Et puis, j'ai peigné à Gao, c'est très sec au bord du fleuve. Et puis, je suis parti en voyage, un long voyage de trois semaines. Et quand je suis revenu, les termites avaient rongé toutes mes peintures, tous mes tableaux et tous mes papiers, des grands papiers dont j'étais plutôt fier. Et j'étais à larmes, j'ai pensé, mon Dieu, tous ces mois de travail et maintenant... Et puis j'étais désespéré. Et après quelques jours, j'ai vu que c'était pas si mal. Et finalement, j'ai préféré de beaucoup celui qui était mangé par les termites. Parce que les termites mangent précisément là où il y avait des couleurs, ils ne mangeaient pas, ils mangeaient à côté. Alors ils soulignaient ma... C'était... Alors j'ai commencé... Finalement, je pense que j'ai détruit ceux qui n'avaient pas de termites et j'ai continué à travailler avec les termites. Ensuite, j'ai appris à les inciter avec des beurres de qualité, de nourrir les papiers pour qu'ils mangent ici et pas là. J'ai même inventé une technique qui s'appelle xylophagie, qui c'est de xylographie faite par des insectes xylophages. Et je peux dire que c'est une technique que j'ai utilisée pendant deux semaines, mais... Ça commence et ça finit avec moi, c'est quand même assez méritoire. Et puis, parce que je voulais faire une technique, d'une manière de faire une technique pour éviter de sombrer dans la mélancolie, disons.
Elle vous guette, la mélancolie?
Oui, toujours, ça guette toujours. Mais justement, c'est de changer de termite, c'est une manière de pas...
changer de termite, parce qu'on se lasse aussi des termites qu'on fréquente.
Et puis maintenant, les termites, ils sont au Mali, j'imagine, après 10 ans, 20 ans d'être nourris de bons papiers, de coton et de bois précieux.
Des bourgeoises.
Ça, oui, maintenant, je dois leur manquer terriblement. Ça doit être comme le mythe du cargo, un peintre qui venait chargé de bois précieux. Bon.
Mickaël Barcelo, vos activités principales sont peindre, nager, lire et parfois écrire en français. Oui. Le moins possible, mais toujours trop, comme hélas. Voilà, ici, écrivez-vous. Alors, vous écrivez en français, pas en catalan. Et vous dites que si vous écriviez en catalan, ce serait une jérémiade infinie. Mais pourquoi?
Parce que c'est ma langue maternelle. Et si j'écrivais de poésie, probablement j'écrirais en catalan. Mais comme je n'écris pas de la poésie, et c'est comme si j'écrivais en latin, comme si j'étais... Ramolio, j'écrivais en latin, pas en... C'est une langue qui me donne une distance, c'est ma langue de lecture. J'aurais pu écrire en anglais, mais j'ai beaucoup plus de maîtrise du français. Et j'écris mal, c'est que, comme j'écris mal, j'ai une sorte d'innocence en français. Si j'écrivais en catalan ou en espagnol, je serais coupable à tous les coups.
Vous lisez énormément et vous écrivez aussi cela. J'aime peu de choses de ce que je lis. Verlaine, Proust, Montaigne, Savitskaya, Stendhal, Modiano. Savitskaya, la cosmonaute soviétique ou l'écrivain belge?
Non, l'écrivain belge.
Et alors, eux, vous,
français,
vous les aimez ou vous les aimez peu?
Oh, je l'aime beaucoup.
Ceux que vous venez de
citer. Oui, mais j'aime pas de choses. Je veux dire, j'aime la plupart des choses que je lis, j'aime pas. Je le jette à la 10e page. Mais Savitskaya, j'ai toujours aimé. Oui.
Il vous arrive de lire deux fois d'affilée le même livre?
Oui, ça m'est arrivé. Le livre que j'aime beaucoup, je les ai lus deux ou trois. J'ai le souvenir de moi lisant quatre fois de suite, la métamorphose ou les voyages de Tom Sawyer, oui, ça je l'ai vu peut-être trois ou quatre fois de suite. Je finissais, je recommençais. Je peux toujours faire ça, oui.
Quel est le dernier livre que vous avez lu deux fois ?
Que j'ai lu deux fois, il y a longtemps de livres de poésie, peut-être. Peut-être un livre sur Gil de Biedma qui est sorti il y a quelques années en espagnol, je l'ai lu deux fois, oui.
Michael Barcelot, vous venez de citer la métamorphose, vous l'avez illustré. Mmh. Et vers 12-13 ans, vous avez eu un professeur de peinture qui vous a recommandé de lire Kafka. Il criait « Kafka ! »
Oui, il disait « Cézanne Kafka ». Il disait « Kafka ». Et j'ai compris que je devais le lire. Oui, c'était pour un peintre, je pense que Kafka c'était si important que justement découvrir le cubisme. Ça change votre vision du monde. Ma mère pleurait quand elle a lu la métamorphose. Je la trouvais à larmes et je lui disais « Mais pourquoi tu pleures, ça t'a pas plu ?» Elle me dit « Oui, ça m'a plu beaucoup, mais j'ai peur de savoir que tu as lu ça. »
Vous êtes né à Felanitch. Quand « Jeune homme prétentieux » écrivez-vous, vous écriviez Felanitch comme le philosophe.
Oui.
Et alors, vous avez vécu les dernières années d'une vie agricole, avant l'arrivée du tourisme, puis de l'euro, la presque totale destruction de la culture traditionnelle. Mmh. Est-ce que c'est pour ça que vous avez tant voyagé ?
Peut-être, mais quand je suis né dans une île, j'avais cette sensation que j'avais... Je me rappelle, je disais, l'île, c'est comme un disque qui tourne, et vous êtes soumis soit à la force centrifuge, soit à la force centripète. Mon père ne quittait jamais l'île pour rien au monde, il ne quittait même pas le village. Et mon grand-père, il voyageait toute sa vie, il a voyagé partout, et moi, j'ai passé la vie à voyager. J'imagine que j'ai besoin de... Je retourne à l'île, mais je voyage. J'ai pas de mal à prendre un avion ou un bateau ou un vélo. J'aime bien me déplacer. Mais je crois que c'est produit de l'insularité, de se voir entouré d'eau partout. Ça crée une espèce d'angoisse.
Il y a beaucoup de voyages et un moment dans le livre, deux voyages écartés, un aux Canaries, un au Kenya. Et vous dites, Michael Barcelot, à chaque fois je voulais fuir quelqu'un ou quelque chose. Mmh. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut vraiment fuir littéralement ?
On essaye toujours, non ? Mais il faut essayer.
Vous avez déjà...
Deux fois, ça marche.
Essayez de vous esquiver vous-même ?
Oh oui. Ah oui, mais ça, j'en parle pas, mais oui.
Et ça marche pas ? Comment ?
Un peu.
Comment est-ce qu'on peut esquiver ?
On se retrouve une autre, mais bon, de mauvaise passe, non ? De mauvaise passe. Moi, j'ai parté au Pays d'Ogon, au mauvaise passe. Et là, je devais faire Pont-Neuf. C'est ça. On fait Pont-Neuf et puis on se retrouve une autre.
On va parler du pays d'Ogon. J'aimerais qu'on aille sous l'eau juste avant. À Majorque, vous avez appris le nom des arbres, des poissons, des oiseaux. Vous aimez la plongée sous-marine. Vous avez lu tous les livres du commandant Cousteau. Est-ce que vous pouvez me citer vos poissons préférés ?
Oui, la rascasse probablement. J'adore la rascasse.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a plein d'épines et tout rouge. Et puis, il se cache, il se métamorphose avec une énorme bouche. Et puis, c'est un poisson monstrueux et d'une grande beauté. Oui, j'aime beaucoup ça.
À un moment, on tombe sur un dessin d'Ensaï Mada, que l'on découvre si l'on ne connaît pas les spécialités de Majorque. Et je lis ce que vous écrivez, Michael Barcelot, parce que c'est assez mystérieux. On en mangeait à Palma quand nous étions adolescents pour éviter les gueules de bois. C'est coprophilique. En plus de la spirale d'Alfred Jarry, ça me fait penser à mon ami Barry Flanagan et l'école de pataphysique, la seule école à laquelle je pourrais appartenir. Une grosse merde. Majorca, quoi.
Oui, parce que Ensaï Mada, c'est une spirale. L'écrivain Josep Pla, l'écrivain catalan Josep Pla, il dit que c'est bizarre que des gens si épais que les Majorcains soient capables de fabriquer un gâteau si fin et délicat qu'un Ensaï Mada. C'est fait avec de saïm, que c'est de sandou. Ensaï Mada, c'est sandou avec du sucre et de farine. C'est drôle, non? Parce qu'on dirait que c'est lourd. C'est une grande légèreté. C'est cette spirale qui est très pataphysique. Mon ami Barry faisait part de l'école pataphysique, donc c'est pour ça que je le sais. Mais ça, c'est une page d'un carnet qui est un peu décousue. Et les gueules de bois, c'est tout simplement parce que les sandous se collent aux parois de l'estomac et évitent que vous absorbez trop d'alcool. C'est un conseil que je donne ici.
Il y a des temporalités et des âges surprenants dans votre livre, Michael Barcelot. À 27 ans, alors que vous peignez déjà depuis 15 ans, vous vous retrouvez célèbre d'un coup. Et puis vous racontez que la plupart de vos amis peintres ont cassé leur pipe entre 27 et 33 ans. Alors, casser sa pipe dans le sens de mourir.
Oui, hélas. Moi, j'ai fait une liste de dates avec lesquelles mouraient les peintres. Et puis, depuis, je ne sais pas, Masaccio... Van Gogh, je ne sais pas, c'était toujours 24, 27, 33, 37, je ne me rappelle pas précisément, mais c'est des dates que je me disais, il faut fuir ça Alors, j'ai passé déjà un âge critique, maintenant je suis prêt à vivre, être centenaire, ou presque centenaire, comme les peintres vénérables qu'on connaît. Oui, mais mes amis des années 80, ils sont morts la plupart, hélas. Moi, je ne suis pas mort parce que je pu partir au Mali, et là, ça m'a sauvé la vie, probablement. Mais c'était, vous savez, à 83, 84, 85, entre les sida, les drogues et l'argent, c'était comme une espèce de fête qui finissait toujours mal.
Votre mère, heureusement, n'a pas participé à cette fête, puisqu'à 96 ans, elle brode toujours et vous avez créé des tapisseries ensemble.
Oui, elle fait le broderie lapin pendant longtemps, pendant des années. Elle peignait des paysages et ensuite elle a commencé à broder. Et puis on a fait ces dernières années de grandes broderies. Assez amusant, c'est un jeu qu'on fait à distance. Je lui envoie des dessins et le brode. Et puis on a une espèce. Et vous savez, le brode avec une toute petite lorgnette de colle-à-main, point après point. Et puis il fait des tapis qui font 4, 5, 6 mètres. Alors ça dure des années, son travail. Et c'est magnifique, c'est une conversation infinie.
Ouais, c'est très beau. Il y a une autre anecdote très jolie que vous racontez, Michel Barcelo, sur votre père. D'abord, vous dites qu'il avait le nez cassé et qu'il pouvait faire un Frankenstein convenable. Et que vous voyez souvent en Frankenstein ou en Dracula.
Oui, ben, je suis le fils de mon père. Oui.
Et pourquoi Dracula ?
Ah ben Dracula, c'est peut-être le premier film que j'ai vu qui m'a beaucoup ému, que j'ai vu aussi 3 ou 4 fois de suite, jusqu'à ce qu'on m'a viré de cinéma. J'étais fasciné, j'ai trouvé tellement beau, tellement poétique, tellement magnifique.
Ça, quelle version ?
C'est de Fleischer, des années, de production anglaise avec, comment il s'appelle, Cushing, des années 60. Ça devait être en 63 ou 64. Oui. Et oui, j'aime beaucoup toujours Dracula et Frankenstein. C'est souvent des modèles c'est Billy the Kid, Dracula et Frankenstein. Ils apparaissent souvent comme des modèles de ma peinture.
Et la jolie anecdote que j'évoquais au sujet de votre père, avec lequel vous avez été fâché pendant quelques années, c'est qu'à la fin de sa vie, il plantait des arbres partout, surtout chez ses connaissances, des milliers d'arbres.
Oui, il aimait bien ça. Alors, il fabriquait des jardins qui ont poussé tous des mesures. Je reconnais des kilomètres un jardin fait par mon père, parce que tout a poussé, il y en a trop. Alors, ils se poussent uns sur les autres, comme c'est un style, oui.
En parlant de Frankenstein, Michel Barcelo, vous mettez vos modèles sur la toile même. Et pour votre tableau Bal de Carn, Danse de la chair, en catalan, vous aviez des cadavres de chèvres.
Oui, j'ai peigné les choses le plus près possible. Et puis, c'était une manière d'être... Oui, j'avais besoin d'avoir... Souvent, j'ai besoin d'avoir les choses tout près de... Pas de photos de choses, mais des choses, des vraies choses. Oui, c'est ça. C'est ça, la peinture entre la chose et les images. Il y a un truc de faire des choses qui ne soient pas de reproduction, non, quelque chose d'une grande intensité. C'est ça que j'essayais, probablement.
Il y a parfois des vrais objets dans vos peintures, comme Jackson Pollock, vous jetez des mégots, des cure-dents.
On vit dedans, non ?
Vous vivez dans le tableau.
Oui, on vit dans le tableau. Alors, tout. Je ne fume pas, mais pendant des années, il y avait des mégots sur mes toiles, parce qu'avec les pieds, je trimballais les mégots qui restaient dans la toile. Et de temps en temps, je le vois encore dans un musée, et je me dis, tiens, il est resté. Si ça tombe, ça tombe. Si ça reste, ça reste. C'est comme la poussière, non ? Il fait part de la peinture. Au Mali, j'ai appris à garder la poussière sur la... Au début, j'essayais de nettoyer mes papiers, mes toiles. Et puis, à la fin, j'ai compris que c'était un don du ciel. C'était comme une glacis, comme les glacis de la Renaissance. Et poussière, parce qu'il reste tellement fine. La première fois que je suis allé au Mali, j'ai demandé à quelqu'un qui faisait Paris-Dakar. Il m'a dit, le pire, c'est la poussière. Il entre même dans les boîtes de sardines, il m'a dit. Il pénètre partout une poussière fine. Et cette poussière si fine, c'est comme un glacis doré d'une couleur miel. C'est super beau. Ça me manque sur mes toiles.
Plus je connais tous les chemins.
Tous les chemins.
fait que des prennes des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Tu reconnais, Mola DPS, MY, Yamé. T'es parti dans le game comme fantasme, c'est régalé.
J't'ai dit, je n'ai pas l'air. Avant le skill, signé fallait. J'ai les pieds sur terre, la vision d'elle.
Il peut pas m'égaler.
Yamé, bah ouais, Yamé qui est aussi un terme japonais utilisé au karaté, mais ça n'a rien à voir.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Michael Barcelot, De la vie d'Amiya vient de paraître au Mercure de France et dans ce livre, vous revenez sur vos années au Mali chez les Dogons qui furent, je vous cite, votre service militaire, votre retraite, votre bac et vous ajoutez, tout était intensité. Et on a l'impression que vous avez recherché après toute votre vie cette même intensité. Oui. Qu'est-ce qui faisait cette intensité selon vous ?
Oui, quelque chose comme peut-être le matin, je décidais chaque matin ce qu'on allait faire les restes de ma vie, disons. Et puis, avec quelque chose, c'est tellement paumé et que vous n'êtes jamais ni riche ni pauvre. Au Mali, on est tous un peu au même niveau. C'est difficile à expliquer l'intensité, mais c'est, chaque seconde, avait, les nuits étaient d'une grande intensité, de manière que quand le moment qu'ils étaient, quand il se passait quelque chose, c'était toujours comme un éclair de bonheur. Oui.
Vous dites que votre technique Dogon est similaire au néolithique. Et c'est intéressant, puisque vous qui avez visité presque toutes les grottes préhistoriques, qui sont une source d'inspiration dans votre peinture, est-ce que vous pouvez revenir dessus et d'ailleurs en profiter pour dire un mot sur votre dernière œuvre, La grotte de Chauvet?
Oui, vous savez, j'ai commencé à faire des céramiques au Mali, parce que je peignais depuis toujours, mais céramique, c'était en 91 que je pense que c'est une dame. C'est un travail féminin, c'est les femmes qui font de poterie. Les messieurs font de tailleur, comme on dit ça. D'ailleurs, les femmes m'ont montré une famille de potières de Bananik, c'est le village en bas de chez moi. Ils m'ont amené là où il y a l'argile, choisir l'argile jaune ou blanche, la pétrir, la mélanger avec de bouse de vache et de paille de mille, et c'est pétrir et ensuite... C'était un long travail, beaucoup plus long la préparation que la... Et puis, il faut savoir où la trouver, l'argile. Et ensuite, à faire un petit four. Je me souviens toujours de nombre d'ogon pour chaque élément. C'était très beau. Ningyu, c'est pour four. Ça veut dire Ningyu. Et ensuite, bon, et puis j'ai appris. J'ai commencé à faire un petit crâne humain. Et modélé, et ensuite, bien sûr, ça s'est rétréci, c'est devenu comme un crâne d'un enfant, et je lui ai rajouté le nez de Pinocchio, et ça s'appelait Pinocchio mort. Et ensuite, quelqu'un m'a dit que c'est le mensonge qui reste après la mort, et j'ai bien aimé ça. Et puis, bon, ça, c'était exactement comme les potiers néolithiques, modélé pareil, cuit pareil, fait pareil, cuit à 300-400 degrés, mais, et souvent... traité après avec une pierre pour le donner pour le faire briller, non, le fait après cuisson, on la frotte longtemps comme sur la charge d'électricité Et j'ai travaillé pendant un an ou deux, et ensuite à Majorque, j'ai commencé à travailler dans un atelier de poterie traditionnelle. C'est comme si j'étais passé de néolithique au 19e siècle, disons. Mais c'était déjà un grand saut en 9 ans. Et ensuite, j'ai travaillé avec des céramistes contemporains. Et, bon, alors, j'ai fait un peu de parcours. Pour rapport aux grottes, il y a une semaine, j'étais à la grotte d'Altamira, en Espagne, à Cantabria, qui est magnifique, qui est une grotte de 15 000 ans. À la grotte Chauvet, je suis allé plein de fois. C'est un des grands moments de ma vie, la grotte Chauvet. C'est une merveille. Vous savez, c'est la grotte avec les peintures plus anciennes qu'on connaît jusqu'à présent, et probablement, pas seulement les plus anciennes, mais probablement les meilleures, ou les plus émouvantes. Dans toutes les grottes, Altamira, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire, mais les bisons, c'est un peu les mêmes bisons à chaque coup. À Chauvet, chaque lion, c'est comme... chaque lion a un nom et un prénom et une date de naissance. C'est comme s'il faisait le portrait de sa famille. C'est stupéfiant. On connaît rien comme ça, ni avant, ni après. On connaît rien avant, mais on connaît rien après de ce niveau d'empathie avec le monde animal.
Et votre dernière sculpture a un rapport avec ça? Vous l'avez fait dans un four spécial?
Oui, à Chaumont. Je l'appelle la grotte Chaumont, c'est un peu comme une petite blague. Mais c'est une grotte transportable en céramique qui fait, je sais pas, 8 mètres ou 6 mètres, très grande, de 5000 kilos. Maintenant, les Chaumont, on est en train de la monter ces jours-ci. Je pense que ça va s'ouvrir au mois de mars, cette grotte Chaumont, à Chaumont-sur-Loire. Ah oui.
Vous avez reconnu tout de suite Miguel Barceló.
Oui.
C'est sorti de Masque d'Ogon par Lawa de Sanga.
Oui.
Qu'est-ce que c'est Lawa?
Ça doit être un funérail, des masques d'un funérail.
Ouais, c'est une société initiatique d'hommes qui accomplit les levées de deuil.
C'est le masque noir, je pense. Je pense. Je suis allé la dernière fois, il y a une quinzaine d'années, quand ils ont sorti les masques noirs.
Vous dites que chez les Dogons, il y a toujours une cachette qui est une cachette dans une cachette et que votre peinture s'est nourrie de ce principe. C'est-à-dire?
J'essaie de me rappeler les mots pour cette cachette dans une cachette, dans une cachette. Je pense que ça vient de l'époque les Dogons se cachaient pour éviter les chasseurs d'esclaves, parce qu'il y en avait pas mal. Et dans les maisons Dogon ressemblent à un corps humain. C'est fait avec une tête, des jambes. Et puis, c'est des maisons de famille. Ça s'appelle Guina. Guina, c'est une grande maison de famille. Il y a plusieurs familles qui habitent avec une cour et l'ancêtre. Il y a une tortue, souvent, qui représente l'ancêtre. Et dans cette maison, il y a une petite pièce. Et dans cette pièce, il y a une autre petite pièce. Et dans cette pièce dérobée, il y a une petite porte où il y a une pièce où vous pouvez rester accroupi. Et c'est magnifique. Je me disais, c'est comme Wilhelm Reich qui fait la chambre d'Orgon pour vous nourrir de l'énergie que vous, comme une espèce... En même temps, c'est comme un escargot, non, qui se met tout au bout de son...
Comme l'Ensaïmada,
la
pâtisserie.
Oui, à peu près le dernier bout de l'Ensaïmada. Oui, et j'aimais beaucoup parce que j'allais des fois avec un bouquin ou des fois sans rien, me passer une heure dans cette cachette dont j'ai oublié le nom. Et à chaque fois, j'avais presque au bout de ma langue, mais je l'ai oublié, hélas. Mais c'est magnifique parce que vous sortez...
Revigoré.
Ah oui.
Miguel Barceló, à Gao, au Mali, vous avez attrapé le choléra. Mmh. C'est aussi au Mali que vous vous êtes fait piquer par un scorpion à côté de l'œil.
À l'œil, oui.
Il semble que vous avez une vision de la vie assez stoïcienne, c'est-à-dire ou fataliste. Quand les choses arrivent, vous vous en accommodez.
Oui. Une fois, j'avais publié un bouquin qui s'appelle « Carnet d'Afrique ». Et un ami à moi m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi tu y vas, tu es toujours malade. Après, je me suis dit, c'est vrai, mais c'est parce que c'est que quand je suis malade que j'écris. La plupart des fois, quand c'est magnifique, je n'écris rien. Je peins ou je danse ou je fais... Mais c'est quand je suis mal en point, je note à ma péquée un scorpion et je me plains. Ça sert à ça, la littérature.
Comme Nietzsche, quand il est malade, il écrit.
Voilà, exactement.
Vous dites voir ce que vous peignez plutôt que peindre ce que vous voyez.
Oui. Oui, parce que j'ai souvent pensé, c'est pas la pensée qui fait la peinture, c'est la peinture qui produit de la pensée.
Vous ne savez toujours pas expliquer ce que vous peignez, Miguel Barceló.
Je peux l'expliquer après coup, mais je pourrais l'expliquer d'une manière différente les jours après.
Je vous cite dans le livre, c'est pas une opinion.
Oui, non, mais je pense que vraiment je ne peux pas l'expliquer. Je ne pense pas que mon explication vaut mieux qu'une autre.
Vous peignez parfois avec de l'eau de Javel qui efface, et les traces en fait n'apparaissent que deux jours plus tard. Donc il y a beaucoup de suspense quand vous
Ça c'est dépeindre plutôt que peindre. J'ai fait des portraits à l'eau de Javel. J'ai commencé au Mali justement à faire d'albinos, de portraits d'albinos. Parce que c'était la technique picturale, la même que la dépigmentation. Alors il y avait c'était intéressant. Ensuite, je me suis dit, on est tous des albinos. J'ai commencé à faire ça aussi avec de tout babou, avec nous autres, et surtout des amis. Bien sûr, c'est les seuls qui veulent se laisser portraiturer par moi. Je n'ai jamais de commande. C'est un peintre de portrait qui n'a jamais une seule commande. C'est drôle.
Vous dites que vous avez un rapport animiste au monde, comme les Dogons. Qu'est-ce que c'est, avoir un rapport animiste au monde ?
Animiste, c'est intéressant parce que c'est un mot inventé par les missionnaires, probablement, ça vient d'âme, non ? Les Dogons, âme, c'est un concept étranger. Et la traduction plus proche du système religieux cosmogonique Dogon, ça veut dire tout droit. Animisme, on dit omono, et omono veut dire tout droit. C'est un rapport au monde direct. Alors, l'islam ou la religion chrétienne, c'est un rapport à travers un Dieu qu'il faut prier pour. Et au mon nom, c'est tout droit. C'est ça, à l'époque, j'ai compris.
Ok. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une poêle bien profonde. À feu très doux, vous en verrez. Trois gousses d'ail en offrande. Une cuillère en bois est nécessaire pour ne rien rayer du fond de la poêle. À saisir lentement, longanis, boudin, lard et gourmandise. Les retirer sans trop tarder. Quatre verres de semoule. Dans un verre d'eau, les séparer. Deux heures seront nécessaires pour qu'apparaissent les boulettes. Continuez de remuer. Continuez de remuer. Avec amour, dégustez-les.
Les Liminianas Migas 2000 dans Grand Canal sur France Inter, choisi exprès pour vous, Mickaël Barcelot. Choisi ce titre des Liminianas parce que là on entend Pascal Comelade avec les Liminianas, ouais. De Nothing Twist, et c'est votre choix musical, Mickaël Barcelot. Ça sonne très Pierre Henry, musique concrète.
Oui, c'est probablement. Mais Pascal Comelade, c'est un grand compositeur français qui est. C'est un peu le contraire de minimalisme, non? C'est un peu. On dirait musique répétitive, sauf qu'il répète jamais rien.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez beaucoup le baroque, vous aimez le foisonnement.
Oui, probablement. Probablement. Deux fois, il y en a trop, mais j'aime bien ça.
Et voici votre autre choix.
Ah oui, ça c'est Francisco Coelho. Oui.
Les quatre miniatures ibériques opus 20. Un petit mot dessus ?
Oui, Francisco Coelho, c'est un jeune compositeur espagnol qui vit en Suisse, je pense. Et quand, pendant qu'il compose, il peint un tableau qu'ensuite il détruit. Mais j'aime bien l'imaginer. C'est un ami, c'est un bon ami.
Michael Barcelo, vous venez de publier « De la vie d'Amia au Mercure de France ». Et dedans, on découvre une autobiographie graphique que vous avez réalisée en 1995 et mise à jour en 2023. On voit des colonnes avec des taches de peinture, puis vos lectures et vos travaux. Quoi d'autre ? C'est quoi une autobiographie
taille,
graphique ?
Il y a ma taille, alors ça commence à...
Vous 30... continuez de grandir ?
Non, j'ai rétréci. Ça commence, je commence à 52 cm, 61, 78, 103, puis ce que je lisais... Et puis là où j'étais, ce que je mangeais, ce que je faisais, oui, Pau, Kafka, Borges, Bethlehem, Góngora. J'essayais de continuer ça jusqu'à 23. Et les livres que j'ai faits, les expos, là où je, passe, là où je peignais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, l'isme que je pratiquais. Alors il y a paste impressionnisme, ce que je faisais à Majorque quand je peignais des paysages. Onanisme, patatisme. Il y a des mots que je n'arrive pas à lire. Automatisme, moïsme.
Moïsme ?
Moïsme.
Qu'est-ce que c'est moïsme ?
Moïsme, c'est que je me cite à moi-même, j'imagine. J'ai déjà oublié, c'est des ismes si courts que je ne me rappelle même plus.
Alors là, onanisme, vous
onanisme,
dites...
ça s'explique de
oui,
soi-même.
Oui, ça s'explique évidemment.
Fumisme, mais... fumisme, c'est avec de la fumée.
Ah oui ?
Oui, parce que je mets mes tableaux que je n'aime pas trop, je les mets dans mon four de céramique et je les enfume. Et ensuite, j'essaye de faire apparaître des choses. Albinisme, ça doit être avec l'eau de Javel, j'imagine, Javel. Etc. Javelisme, stalactisme, truisme, épluchérisme, chouisme.
Ça, c'est les choux ?
Probablement.
Vous aviez des périodes obsessionnelles avec
ensuite,
les choux ?
Ensuite, il y a les passodo, à peu près ce que je faisais à chaque moment, dans, si je faisais une espèce de spectacle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, il y a un tas de choses. Les expos, là où j'ai fait des expos, au Japon, à Faenza, à New York, à Bruxelles, à Malaga, à Porquerolles, à Londres, à Paris, à Genève. Ah oui, la cathédrale de Palma. Oui, c'est vrai, mais c'est ma vie.
Alors justement, il y a la fresque
c'est
en
drôle
céramique.
De faire un résumé.
Oui, c'est très amusant. Il y a la fresque en céramique de la chapelle de la cathédrale de Palma à Majorque. Il y a la coupole de la salle des droits de l'homme de l'ONU à Genève. De quoi êtes-vous le plus fier, Michael Barcelo ?
Ouf. Mais je suis fier que c'est fini, que ça n'a pas tombé, que ça restait sur place. Alors mais je suis pas fier longtemps. Je suis fier peut-être un jour ou deux après.
Vous passez à la suite.
Oui, parce que déjà, ça ne me concerne pas trop.
Alors vous dites justement, c'est toujours mieux quand on dit que ça ne va pas, quand on est content, ce n'est pas bon signe.
C'est vrai, en général, c'est ça. Ce n'est pas expérience personnelle, mais quand... Je quitte l'atelier en pensant, ah, j'ai fait quelque chose de bien, je regrette après et je fasse tout. Si je pars mal fâché, peut-être un bon espoir de quelque chose, mais c'est toujours une espèce de paradoxe. Ça prend forme de paradoxe.
Vous écrivez aussi, il faudrait toujours noter dans un carnet quand on est content, comme cet anthropologue Malinowski, point d'interrogation, qui dessinait sur son carnet un signe secret à chaque fois qu'il se branlait.
Oui.
On revient à l'onanisme.
Oui, ça revient souvent à l'onanisme.
Oui, ça revient
à par période, une fois par jour.
Une fois par jour ?
À une période de vingtaine, oui. Oui, mais je notais pas rien, moi. Moi, je notais pas. Je ne suis pas Malinowski.
Mais là,
vous... Malinowski aussi notait quand il couchait avec une indigène.
Ah bon, mais
parce que c'était interdit. Un anthropologue ne peut pas avoir de rapport avec... Bien sûr, ça casse tout. Et alors, il faisait un signe pour la masturbation, un signe, je pense. Puis il disait qu'il prenait d'arsenic et de cocaïne. Et aussi, c'était un nom couvert de fautes.
Un jouisseur, ce mec.
Oui, un jouisseur coupable.
Êtes-vous souvent content, Michael Barcelo ?
Ça m'arrive. Ça m'arrive, mais c'est bien de le dire, parce que c'est vrai, c'est une bonne... Après, on se souvient.
L'êtes-vous maintenant ?
Oui, je ne suis pas mécontent.
Ben, c'est pas bon signe, alors.
Non, c'est mauvais signe d'être content de son tableau.
Oui.
Mais moi, je suis même propre aujourd'hui.
Il y a une chose assez amusante, c'est qu'un jour, on vous a appris que Patti Smith lisait vos poèmes, et puis vous vous êtes dit, mais j'ai jamais écrit de poème.
Oui,
et en fait, elle lisait quoi ?
Elle lisait mon liste, les listes de carnet d'Afrique, où il y a des listes de choses, ou des choses à faire, ou des choses à acheter, ou des livres à lire. Mais les listes sont toujours belles, comme Borges a fait le poème, que c'est des listes. Non ? Elle devait lire une liste.
Vous aimez beaucoup les listes, vous ?
Oui, j'aime bien aussi, j'aime bien. Là, j'ai fait ces listes dans le tableau. J'essayais de nommer tout ce qui apparaît dans les tableaux. C'est une nature morte. Et là, il y a Poe. Le tableau s'appelle Poe parce qu'il y a le livre d'Edgar Poe. D'Edgar Allan Poe. Alors, il y a un pastèque avec un couteau, un crâne de mort, une bougie, une coupe de fruits, une gousse d'ail, un couteau sur une assiette, une lotte, un homard, une tête de veau, un fromage avec un couteau, une plante dans un pot, un crâne dans une jarre, une demi-pomme et poire, une pieuvre, les livres d'Edgar Allan Poe, une carotte, un calamar, une bouteille, du pain, un chandelier à 6 branches, et ensuite, à partir de ces points, tous les éléments se répètent pour deuxième fois avec deux variantes.
Je vais dévoiler une autre liste dans quelques secondes, juste après un petit extrait d'un morceau d'un de vos anciens amis, Michel Barcelot.
Camarón. Ah oui. Camarón.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos.
1981, Camarón de la Isla et Paco de Lucía, Como el agua. Le chanteur de flamenco Camarón de la Isla était l'un de vos amis.
Oui, il me manque beaucoup. C'était un grand chanteur, peut-être le plus grand chanteur de flamenco de notre, de notre temps.
J'ai promis une autre liste, c'est un autre type d'amis, ce sont vos chiens successifs.
Oui, ouais.
Et dedans, il y a Ali, Trip, Oscar et Satan.
Satan, oui, quand j'avais été là, ça, mon chien s'appelait Satan. Je l'ai eu avec ses noms.
Ah, c'est pas vous qui l'avez
oui,
choisi.
C'est pas moi qui l'ai nommé, mais je l'aimais beaucoup, oui. C'était l'Irlandais, oui, rouge.
Pour continuer dans les listes qui sont comme des cabinets de curiosité que vous appréciez, Michel Barcelot, il y a beaucoup d'animaux dans vos œuvres. Et puis, adolescent, dans la bibliothèque de votre village, vous avez lu un livre et les formules pour des techniques picturales.
Oui, oui.
Il y en a une qui comportait du sperme de baleine en poudre. Et vous vous demandiez, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver
oui,
ça ?
Oui, à Barcelone, j'ai trouvé une droguerie où ils vendaient ça, le sperme de baleine. C'était commun jusqu'aux années 20, je pense. Ça s'utilisait dans l'industrie de la peinture, oui.
Il y a une chose qui m'a surprise dans votre autobiographie, Michel Barcelot. À un moment, vous racontez que Roland Garros vous a commandé une affiche qui a été refusée. Et
oui.
Quand on voit l'affiche que vous avez réalisée, on comprend,
oui.
Ça n'a absolument rien à voir avec le tennis. Vous pouvez raconter.
Oui, c'est une affiche de taureau, parce que j'ai trouvé drôle. Et c'était comme une affiche de corrida, mais qui dit Roland Garros 1992. Mais voilà, ça n'a pas marché. J'ai essayé.
Et pourquoi un taureau ?
Parce que j'ai trouvé drôle de faire ces glissements de sens, non, un peu situationniste, disons. Ils n'ont pas eu l'humour pour. Ils m'ont dit qu'il y avait des gens qui étaient contre la tauromachie. Alors, qu'est-ce qu'on peut. Ça, on ne peut pas.
Oui, là, on rentre
contre
dans
ça,
un.
On n'y peut rien.
Dans un grand débat.
Oui.
La Divine Comédie de Dante, en 3 volumes illustrés par vos soins et traduite par Daniel Robert, est parue en coffret aux éditions Actes Sud, 350 aquarelles réalisées entre 2001 et 2003 à Majorque et à Paris. Sur du papier, on continue à parler d'animaux avec vous, Michel Barcelo, sur du papier employé habituellement pour l'emballage de poissons.
Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ces illustrations sur un papier plutôt de... C'est le papier que j'utilisais à Barcelone parce qu'il se vendait au kilo. Alors, comme je n'avais pas d'argent, j'achetais souvent ces papiers. Mais c'est terrible pour reproduire parce que c'est un papier très colorié, avec beaucoup de... Et c'est, il vaut mieux utiliser des papiers plus blancs. Mais bon, c'est comme je l'ai fait sur ces papiers-là. Si c'est, on achetait 10 kilos de papier, on était bon pour... Mon souci principal au Barcelone... 79, c'est d'avoir de toile et de papier pour peindre, et de piment, parce que c'était cher et j'avais pas d'argent. Et j'achetais ces papiers au kilo et ensuite je prenais beaucoup de boîtes de frigo dans la rue, de cartons de frigo, vous voyez, les gros frigos, ils sont des cartons que dépliés, ils font environ 2 mètres par 1,50 m. Et beaucoup de mes toiles font 2 mètres par 1,50 m, c'est des cartons de frigo démontés, ouverts. Et puis oui, je me suis débrouillé à faire à trouver de matière pour peu d'argent, trouver de matériel pour peindre de toile. J'ai acheté des sacs de couchage de la de militaire espagnol. Vous savez que j'ai démonté, j'ai monté sur des châssis, mais c'est le sac de couchage en toile de lin. Ça, c'était ma toile pour peindre au début des années 80.
Une dernière question en rapport avec la Divine Comédie, Michel Barcelo. Vous avez hérité de la peur de l'enfer franquiste, mais oui. Vous vous en êtes débarrassé grâce à la culture. Vous ne croyez plus du tout en l'enfer aujourd'hui ?
Non, pas vraiment. Moi, j'aime beaucoup comme création de l'esprit, non ? J'aime bien le paradis. Quand je lisais la Divina Comédie, j'aimais beaucoup l'enfer que je connaissais. Et ensuite, le paradis et le purgatoire, c'est quand même extraordinaire aussi. Oui, j'aime beaucoup comme une création de...
C'est lequel votre préféré ?
Peut-être c'est toujours l'enfer.
L'enfer.
Il se passe plus de choses.
Merci beaucoup, Michel Barcelo.
Je vous en prie.
Le 4 janvier dernier est paru « Dès la vie d'Amia » au Mercure de France dans la collection « Traits et portraits » dirigée par Colette Fellous. La Divine Comédie de Dante en 3 volumes illustrés par vos soins et traduite par Daniel Robert est paru en coffret aux éditions Actes Sud. Votre exposition « Scarification » est visible au musée Barbier-Muller de Genève jusqu'au 21 avril prochain et accompagnée d'un catalogue coédité par le musée et les éditions In Fine. Il y a aussi une exposition au musée Asger Jorn à Silkeborg au Danemark, je le prononce correctement,
oui.
Jusqu'au 14 janvier. Et à venir, une grande exposition de céramique à la Pedrera, la Casa Mila de Gaudí à Barcelone, à partir du 8 mars 2024. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Guillaume Ficheux.